pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Quelques jours après le 21 avril 2002, il y a 14 ans de cela, après l'annonce de la qualification du candidat d'extrême droite au deuxième tour des élections présidentielles en France, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester, entre autres, ce qu'ils appelaient leur honte. Sur les pancartes, on pouvait lire « J'ai honte de mon pays »,« Honte d'être français » ou parfois simplement « La honte ». Dans un livre intitulé « La honte est-elle immorale ?» et paru peu de temps après cela, le philosophe Ruven Augien commence en évoquant souvenir et il souligne ce que ces manifestations avaient en réalité d'assez surprenant. Car en général, dit-il, nous avons plutôt tendance à nous cacher quand nous avons honte, ou à cacher ce dont nous avons honte. On ne manifeste guère sa honte par centaines de milliers. Descendre ainsi dans la rue pour étaler publiquement sa honte pouvait donc sembler paradoxal. Ces slogans, en réalité, étaient assez ambigus, poursuit le philosophe. Les manifestants reprochaient-ils aux candidats d'extrême droite de déshonorer leur pays, aux yeux du monde par exemple, aux yeux de leurs enfants, de l'histoire, de la postérité? Ou bien, au contraire, ces manifestants étaient-ils en train de se reprocher à eux-mêmes d'avoir mal évalué la situation ou d'avoir agi de façon idiote ou imprudente? Honte de ne pas être allé voter, honte d'avoir voté pour un petit parti sans aucune chance, honte d'avoir sous-estimé les risques, etc. Dans le premier cas, la honte est une émotion comme interposée avec une médiation. Dans le deuxième, la honte appartient à la famille des émotions comme le regret, le remords, la culpabilité, l'embarras, la gêne ou même le chagrin. On les appelle contrefactuelles, au sens où elles expriment, dit Ruven Augien, une préférence en faveur d'un monde où d'autres choix auraient été faits, comme « si j'avais su, j'aurais voté »,« si j'avais su, j'aurais voté utile ». Durant toute cette semaine, consacrée aux émotions sur France Culture, la honte est celle que nous examinons sous toutes les coutures, dans les pieds sur terre et dans les deux sens. Au sens d'avoir honte comme une faute personnelle ou de s'en sentir responsable et au sens d'avoir honte pour autrui. La honte de ses parents ou pour ses parents nous occupera pour une grande part en ce qu'elle condense ce qu'il y a de plus aigu, douloureux, complexe dans cette émotion. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Jean Buvins qui se passe en Belgique, à la frontière avec l'Allemagne. Cet homme est né en 1934 à Uccle, une des communes de Bruxelles, et il n'a pas trouvé grand-chose pour être fier de ses parents. Il raconte son histoire depuis le début à Alain Lefkovitch sur France Culture jusqu'à 14h. Vous écoutez Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis pas resté longtemps chez mes parents. J'ai été tout un temps chez une nourrice. Comme mes parents ne savaient pas s'occuper de moi, j'étais tout un temps chez une nourrice. Ils étaient en service, mon père comme chauffeur de maître. Son patron était le propriétaire des tanneries de Zaventem. C'était des juifs allemands. Ma mère vient d'un tout petit hameau des Flandres. Et ma mère était cuisinière et femme de chambre, là, c'est chez elle. En 1939, quand ça a commencé à aller très mal, ces gens ont décidé de partir pour Cuba. Et ils ont demandé à mes parents s'ils voulaient partir avec à Cuba. Mes parents n'ont pas voulu. Ces gens sont partis. Mon père est devenu soldat en 1940. Il a été chauffeur à l'armée. Et à un moment donné, il lui a semblé qu'il devait rentrer à la maison pour nous apporter des masques à gaz. Fait qu'il a abandonné ses collègues, il est parti avec le véhicule militaire, il est venu à Bruxelles et nous a apporté des masques à gaz. Mais comme il avait disparu, il a été mis sur la liste. Il est disparu. Il est parti en captivité alors, quand les 10 jours de guerre se sont terminés, où il est resté 9 mois en captivité, il était bien, là, il était dans une ferme, il était bien. Dans le nord de l'Allemagne, quelque part. Alors, au bout de 9 mois, il est revenu. Et là, toutes les misères ont commencé. Hein. Mon père, pendant que lui était en Allemagne, ma mère, elle a commencé à courir l'occupant. Et elle m'a entraîné dans cette histoire. Quand j'avais pas classe, elle ne savait pas me laisser à la maison. Et comme ça, j'ai vu des choses qui, à mon âge, j'aurais pas dû voir. Dans un cinéma de... dans la rue Neuve, à Bruxelles. Et elle était là avec un Allemand. Était un officier ou pas, je n'en sais rien. Ils avaient pris une loge. Moi, j'étais derrière et... Bon. Il y a eu des attouchements que j'aurais pas dû voir. Et ça, à plusieurs reprises, hein, ces histoires-là. Hein. Elle a continué quand même, en cachette, à fréquenter, pendant un certain temps, l'occupant. Mon père n'a pas réagi. C'est important, ça, mon père n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Mais alors, mon père, revenu de captivité, devait travailler. Mon père s'est engagé à l'organisation TOT. Il s'occupait du transport, de la logistique pour l'armée allemande. Et avec l'organisation TOT, il a été jusque près de Moscou. Et puis un beau jour, mon père ne revient pas. Il a commis un vol à l'organisation TOT. Il a été arrêté, parce que c'était facile. Des camions de nourriture, des camions de vêtements, bon. Et il est resté une huitaine de jours à la prison de Saint-Gilles. Puis il est sorti de la prison de Saint-Gilles. En principe, il aurait dû être envoyé dans un camp. Et en fait, non, il a été libéré. Et à partir de là, il a travaillé pour la Gestapo, comme chauffeur pour la Gestapo. Chauffeur à tout faire. Quand il y avait des rafles, accompagner pour arrêter et embarquer les personnes qui étaient en général des juifs, naturellement. Et on a de nouveau déménagé, on a été dans un appartement beaucoup plus chic. Oui, il gagnait mieux sa vie. Un jour, mes parents ont de la visite. Et ils ont dû discuter de ce problème juif et des juifs qui étaient embarqués. Et quand ces gens sont partis, et ça je ne sais pas pourquoi mon père était circoncis, mais enfin, au moment où ces gens sont partis, dans la discussion, mon père a dit, ben je vais te montrer. Et il a montré son sexe à la famille pour montrer à quoi ressemblait un juif. Parce qu'en fait, pour nous autres chrétiens, c'était pas évident. Hein. Maintenant, tout ça est devenu évident. Il y a peut-être autant de chrétiens qui sont circoncis que de juifs dans Syrie. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Hein. Je crois que c'est ma mère qui a pris le contrôle de tout ça. Et lui était très faible. Et il s'est laissé entraîner. Près de Edelard, il y avait une fabrique de textiles. Et il était de notoriété publique que cette fabrique appartenait à un juif. Et ils étaient mal payés, maltraités, enfin, suivant elle. Et en plus, quand ils allaient à la messe, notre église cassait du sucre sur le dos des juifs. Hein. On disait « perfidie judéa » dans certaines messes. Bien, tout ceci a amené qu'elle avait quand même, au départ, et peut-être aussi le fait d'avoir dû être femme de chambre et cuisinière chez les Juifs. Hein. Est-ce que tout ça a laissé des traces dans son esprit ? Non, c'est rien. Quand moi je n'avais pas école, on allait nous promener et elle allait repérer les noms juifs sur les sonnettes des maisons. Les noms à consonance juif. Moi, je n'ai pas pensé. J'ai rien vu venir. J'ai rien ressenti qui aurait pu me faire penser « Oh, ta mère, elle fait des méchantes choses. » Rien du tout. Elle m'entraînait partout. Moi, j'étais, au fond, son alibi. Et comme ça, elle a repéré des juifs qui ont été arrêtés. Ça a duré jusqu'à septembre 1944. Ils ont entendu ce qui s'était passé à Paris, notamment avec les collaborateurs. Et ils ont préféré fuir. Hein. Ils ont mis tous les meubles au garde-meubles. Il y avait une Mercedes décapotable. C'est encore une Mercedes avec des marchepieds. Et sur chaque marchepied, il y avait un type en armes. Sur un des marchepieds, il y avait mon père devant. On a dû s'engouffrer dans la Mercedes. La Mercedes est partie à fond de balle à travers Bruxelles. Et on est retourné vers l'avenue Louise, vers la Gestapo. Pourquoi ? Parce que dans l'avenue en face de la Gestapo habitait un ami de mon père. Et quand on est arrivé là-bas, ces gens nous ont bien reçus. Il y avait trois filles. Il faisait beau. Début du mois de septembre 1944, il faisait très beau. Et on a joué toute la soirée dans le jardin derrière. Le lendemain matin, nous sommes partis. En face de la Gestapo, il y avait toute une colonne de camions. Et mon père conduisait le dernier camion. Il y avait beaucoup d'animation. Les Allemands étaient fort nerveux. Et ils couraient à gauche et à droite. Et à un moment donné, mon père est venu dire quelque chose à ma mère. Il a essayé de le dire de façon à ce que je ne l'entende pas. Le monsieur chez qui on avait logé la nuit venait d'abattre ses trois filles, sa femme, et s'était suicidé. Il avait fait comme Goebbels, anticipativement. Je voyais là en face, la porte juste à côté de la Gestapo, je voyais des gens sortir en civil, hein, avec des vélos. En fait, ce n'étaient pas des civils qui venaient voler. C'était des soldats allemands, non, des hommes de la Gestapo, des SS de la Gestapo, qui s'étaient mis en civil pour filer. Ça, j'ai vu après. Et alors, j'ai aussi vu là mon père défiler en uniforme SS. Ma mère avait l'air fière de voir son mari. Moi, je ne sais pas si j'ai été fier ou pas de mon père. Je n'en sais rien. Et comme ça, on est parti faire Louvain, Dist. Et là, on a été arrêté par des gens de la résistance. Et parmi les personnes qui barraient la rue, il y avait un clerc de notaire, un cousin à mon père. Et à la fin du compte, le clerc de notaire a quand même laissé passer nos trois camions. Et on a continué jusqu'à Valls. Et là, on s'est arrêté. Tout le monde est descendu. Et là, les Allemands ont lâché mon père et ma mère. Ils ne savaient plus quoi en faire. Ils n'avaient plus besoin. Dénoncer des Juifs, fini. Mes parents ont dû chercher de quoi se loger. Et tout ce qu'on a trouvé, une cave dans les ruines d'un bâtiment. Et là, on a vécu quand même pendant presque un an dans cette cave, hein. Moi, j'ai suivi, comme un gosse suit ses parents. Je pense que je n'ai rien compris du tout. Dire que je trouvais les choses normales, je ne sais pas, je vivais comme ça. Et je me promenais, toujours tout seul, parce qu'il n'y avait pas d'autre cause dans cette situation. Puis un matin, je me réveille et ma mère n'est plus là. Et ma mère était repartie en Belgique. Elle nous avait laissés là, mon père et moi. Est-ce qu'elle a voulu sauver sa peau seule en Belgique ? Qu'elle s'est dit, si moi je repars seule avec mes charmes, je vais mieux m'en tirer. De là, on est parti aussi, on a été habité chez l'ami de mon père, qui tenait un magasin à Düsseldorf. Et j'ai vécu là, alors, pendant un certain temps. Et je continuais toujours à me promener tout seul. Le temps a passé, et au mois de septembre, moi, je dois aller à l'école. Il y a déjà plus d'un an que j'ai plus été à l'école. Alors, mon père a quand même décidé, on doit rentrer en Belgique. Mais tout ça s'était vite dit. Il n'y avait plus de pont sur le Rhin. Le seul pont qui existait à Düsseldorf, c'était d'un pont que les Américains avaient fait avec des bateaux. Des bateaux gonflants. Et là-dessus, ils avaient mis des planches. Hein, et les camions passaient là-dessus. Un matin, on s'est retrouvé dans un de ces camions. On a traversé comme ça. Caen, on a traversé le Rhin vers la Belgique. Et le deuxième jour, alors, on est revenu jusqu'en Belgique. Et là, à la frontière, on a dû rentrer dans un bâtiment, mon père et moi. Mon père m'a donné une enveloppe. Il dit, garde ça pour toi s'il y a quelque chose. Il me dit. Mon père n'avait plus de papier. Hein. Arrêté hein, par la gendarmerie. Et moi, par là, lui par là. Si les gendarmes l'ont amené, c'était pour l'amener en prison. Hein. Il était sur la liste, moi qui avais collaboré. Hein. Et puis, j'ai plus vu mon père. Hein. Et moi aussi, on m'a emmené. chez mon grand-père, à Bruxelles. C'était bien. Et on a vécu comme ça ensemble. À cette époque-là, ma mère venait de sortir de prison. Ma mère a été accusée de collaboration avec l'ennemi, mais sans l'histoire de la dénonciation des Juifs. Ça n'a jamais été prouvé. Elle avait le meilleur avocat de Belgique. Elle avait travaillé chez cet avocat avant la guerre. Et elle l'a recontacté quand elle était en prison.
France Culture, les pieds sur terre.
Après la guerre, quand on est revenu, ma mère a fait un peu la pute à gauche, à droite. Elle m'a emmené au bordel où elle travaillait, près de la gare du Midi. Et rue de Trèves, là, elle a eu un client qui s'appelait Georges Grosjean. C'était le petit-fils de Frère Orban. Et Frère Orban, c'est le plus célèbre Belge qu'il a eu depuis l'indépendance. Et ce monsieur s'est marié avec ma mère. Il n'a pas simplement été une fois au bordel, là, mais non. Ils ont continué à se rencontrer et ils se sont mariés. Bon, donc elle était arrivée dans la vie où elle voulait arriver. Entre-temps, mon père sort de prison. Et très vite, mon père m'a fait comprendre qu'il avait été collaborateur. Comment ? Quand lui est sorti de prison, il a essayé de retrouver des anciens collabos. Les anciens collabos se réunissaient déjà. Après la guerre, très vite, ils avaient un café rue de Laeken à Bruxelles où ils se réunissaient. Et ils m'avaient montré ça, ils m'avaient dit ça. Et alors plus tard, mais ça un peu plus tard, dans une solographie, il a dit à sa compagne, un juif, ça valait 500 francs. Mon père a fait la connaissance de Madame Van Hoof Kapper, la veuve d'un juif déporté. La veuve d'un riche juif déporté. Les plus riches d'Amsterdam. Et cette pauvre femme, bon, elle ne savait rien du passé de mon père. Et là, mon père commençait déjà à devenir la crapule qu'il est devenu. Il s'est vite rendu compte que la dame avec laquelle il était, il pouvait l'exploiter. Et cette femme, elle avait été habituée à la grande vie avec son mari. Et puis un beau jour, il n'y a plus personne. Son beau-père est mort, sa belle-mère s'est suicidée pendant la guerre, son mari est mort dans un camp, et comme personne très faible, elle a chuté dans le néant. Et alors elle tombe sur mon père, qui pour elle était la bouée de sauvetage. Et elle a commencé à vivre sur les crochets de cette dame. On sentait dans sa façon d'être, qui devenait de plus en plus ignoble, qu'il ne savait pas vivre avec les remords qu'il avait sur la conscience. Il voulait entraîner les autres dans sa déchéance, notamment cette pauvre femme, et qu'il a complètement démoli cette femme, complètement. Et il a dépouillé de tout, hein, plus un centime de toute sa fortune. Et on vit très mal avec une histoire pareille parce qu'on ne sait se confier à personne. On entend les autres raconter de leur histoire, qui est banale, souvent banale, mais ils ont une histoire dont ils peuvent être fiers, ou un papa dont ils peuvent être fiers. Bien, vous avez un chanteur français qui chante une chanson sur son papa, Daniel Guichard. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand j'entends ça. Cette chanson, c'est fantastique. Je ne sais pas si c'est vraiment son histoire, mais c'est une histoire comme ça que moi j'ai cherchée dans ma vie. Et je ne l'ai jamais eue. Et je ne l'aurai jamais. Mais elle me manque. Elle me manquera toujours. Et alors cette horreur qu'il a fait avec le peuple juif, ça c'est... Et c'est pour ça que j'ai écrit, parce que c'est impardonnable. Et je ne suis pas fier de tout ça. Et ça m'a gâché la vie. Ça m'a poursuivi jour et nuit. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je n'ai pas eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis des Juifs. Hein. Pas un jour. Moi, je suis devenu policier à Schaerbeek, dans la commune où nous habitions, où ma mère a repéré des noms à consonance juive. Un jour, j'étais en patrouille avec un collègue. Le collègue était chauffeur, moi j'étais chef de patrouille. Et on s'est arrêté là. Mais... bien, il dit, Jean, il dit, regarde ici, mon ami. Eh bien, il dit, tu sais, sa famille, que sa famille est juive. Eh bien, de sa famille, ici, ils ont été déportés pendant la guerre. Il y avait un enfant avec eux aussi. Non, j'aime pas de raconter. Je sais, c'est parce que mon père est revenu avec des jouets le lendemain. Et... ce qui m'aurait probablement débarrassé de ce point, si mes parents, ou tout au moins mon père, auraient été fusillés après la guerre. J'aurais dit, il a payé. Mais il a continué à détruire la femme avec laquelle il vivait. Il a essayé de me détruire à moi. Quand je suis devenu policier, mon père habitait à Alost. Il avait un café là. Et il s'est dit, non, moi je vais aller habiter Schaerbeek. Parce que là, moi j'ai un passe-droit. Mon fils policier, moi j'ai fait ce que je veux à Schaerbeek. Et c'est ce qu'il a fait aussi. Qu'à la fin du compte, un soir, mes collègues sont venus sonner chez moi et m'ont dit, écoute Jean, maintenant il faut que ça cesse. Hein. C'est de trop. Hein. Un matin, je suis de service près de chez lui. Il sort de son atelier. Oh, il dit, viens, puis veux voir. Il dit, et il y a une rue en pente. Il dit, viens, puis avec moi, regarde. Il dit, regarde là en face. Tu vois sur les voitures, là, oui. Une, deux, trois, quatre, cinq voitures, toutes abîmées. Il avait accroché une demi-douzaine de voitures la nuit dans sa solographie. Il vient me raconter ça, moi. Je suis policier. C'est ignoble, hein? Parce qu'il s'est dit, tu ne vas pas oser le dire. Et je ne l'ai pas dit. Pourtant, j'aurais dû. C'était mon devoir d'aller au bureau et de dire, voilà, mon père a accroché toutes ces voitures. Je ne l'ai pas fait. Quand mon père est mort, moi j'étais policier, hein, et mon officier n'avait rien trouvé de mieux que pour l'enterrement de mon père de faire une haie d'honneur à la sortie de l'église. Ça fait que sur les escaliers de l'église, de chaque côté, il y avait 4-5 policiers qui ont salué quand mon père est passé. C'est abominable. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dire foutez le camp? Je suis content qu'il ne l'a pas vu, mon père. Hein. C'est la seule consolation que j'ai. Hein. Ma vie a tellement conditionné par cette affaire que moi, je ne sais rien dénoncer. Même pas comme policier. Hein. Il y a des choses que j'ai tues à la police que je n'aurais pas dû dire. Pour moi, tout ce que je pourrais dire dans ce sens-là, c'est de la délation. J'ai laissé courir un jeune comme ça. On veut identifier un jeune et il s'en court. On n'a pas su le rattraper, on n'a pas su le rattraper. Mais quelques jours après, moi je fais un service à pied, et qu'est-ce qui arrive dans le sens inverse? Ce jeune, je l'ai regardé, je l'ai laissé passer. Je n'aurais pas su l'arrêter. Un jour, on doit conduire un monsieur qui vient de tuer sa femme. Et ce type, à son travail, on l'avait, mais pendant des mois, mais ta femme te trompe. Pendant que tu es ici, et un beau jour, il est rentré à la maison, il a tué sa femme, à cause de ses collègues. Et moi, je dois le conduire au palais de justice, après son meurtre, avec un autre collègue. Et il était assis là, en face de moi, le type. Il me faisait de la peine. Je crois que si j'avais été seul, j'aurais ouvert la porte. La camionnette, j'aurais dit, fous le camp. Et cette histoire, j'ai toujours gardé pour moi. Et d'autant plus que j'ai très peu raconté cette histoire, que ma femme était allemande. Donc, elle était partie prenante dans cette histoire. Et elle n'aimait pas beaucoup, surtout cette génération-là, n'aimait pas beaucoup qu'on leur parle de ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Alors, j'en parlais peu. Et j'ai entendu dire ça des Juifs, par exemple, qui ont été dans les camps. Ils n'en parlaient pas après. Il y a des choses qu'on a vécues, mais qu'on ne sait pas extérioriser. C'est trop. Et alors, on a toujours aussi peur ne pas être cru. Ça dépasse l'entendement. Mais je me suis toujours dit, un jour tu écriras. Parce que, aussi, on dit toujours que quand on a écrit une histoire, on en est débarrassé. On l'a donné aux autres. Régulièrement. sans aucune raison. La nuit, je me réveillais, baignant de sueur. J'avais de nouveau fait un cauchemar de... Alors je sais qu'il y a de nouveau eu une alerte par rapport à ce qui s'est passé. Mais quoi ? Je ne saurais jamais. Je n'ai pas envie d'aller consulter Freud pour savoir la vérité, parce que Dieu sait ce qu'il y a derrière cette vérité. Je ne sais pas, moi. C'est pourquoi je préfère ne pas savoir. J'ai toujours honte. Et alors, il y a quelque chose d'inexplicable, c'est que je suis attiré par l'horreur de ce qui s'est passé. Je dois regarder tous les documentaires. La libération des camps, j'ai peut-être déjà regardé ça 100 fois. Vous n'allez pas regarder 100 fois la libération des camps. La plupart des gens ne vont pas. Alors, en général, non. Presque tous les jours, je prends ma télécommande et je regarde qu'est-ce qu'il y a sur CDF Info. Et s'il y a History, je vais d'abord voir ce que c'est. En regardant ces images, je me dis, regarde, il y a peut-être des malheureux qui ont été dénoncés par mes parents. Mais au moins, ceux-là vivent encore. Ils ont survécu, puisqu'à la libération des camps. Mais ceux qui ne sont pas dans l'image sont morts. Et quand je vais en voyage, je vais toujours dans une synagogue. J'ai toujours essayé d'expier les fautes de mes parents. Mais la communauté juive ne l'accepte pas. Ils ne vous laissent pas venir chez eux. Vous avez difficilement accès à la communauté juive. Quand j'ai fait du service là, comme officier de police, j'avais un quartier dans lequel il y avait encore pas mal de juifs qui habitaient. J'ai jamais su avoir de contact avec eux. C'est pas un reproche que je leur fais. Hein. Le reproche, c'est moi qui me fais le reproche d'avoir existé. Hein. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, la honte, premier épisode, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Alexandra Malka. Merci à Jean Buvin, qui est l'auteur de Mon père, ce collabo, La vie d'un collaborateur racontée par son fils aux éditions Jourdan. 2016, une année d'émotions fortes. Je vous le rappelle, ce sont 31 podcasts diffusés chaque jour du 1er au 31 décembre à redécouvrir sur le site de France Culture et les réseaux sociaux. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Vos commentaires, vos réactions, faire circuler, échanger, partager nos émissions, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, Twitter. On vous y attend nombreux.